Bible de l'humanité, 3, la Grèce, chapitre 4, l'invention de la cité. La première œuvre fut l'Olympe, la seconde fut la cité. Celle-ci, œuvre surprenante du génie grec, neuve alors, inouïe, sans exemple et sans précédent. Tout l'effort de l'humanité jusque-là n'a fait que des villes, des rapprochements de tribus, des agrégations de villages réunis pour la sûreté. Des nations entières se sont accumulées dans les villes énormes d'Asie. Ces prodiges de Babylone, de Ninive, de Thèbes aux 100 portes, avec leur éclat, leur richesse, n'en sont pas moins des monstres. À la Grèce seule appartient la création de la cité, suprême harmonie d'art qui n'en est que plus naturelle, beauté pure, régulière, que rien n'a dépassée, qui subsiste à côté des formules de raisonnement et des figures géométriques que la Grèce a tracées aussi. La cité des Olympiens préparait-elle celle de la terre? Oui, l'Olympe déjà tend à la République. Les dieux sont passablement libres. Ils délibèrent, ils plaident, ils ont leur agora. Pluton, Neptune ont leur royaume subordonné, pourtant n'ont qu'une indépendance. Toutefois, l'élément monarchique persiste en Jupiter, l'Agamemnon des dieux. La cité d'ici-bas sera tout autre chose. Elle rappellera peu l'irrégulier gouvernement du ciel. La République de là-haut est une œuvre enfantine devant la République humaine. De ce pauvre idéal, il faut du chemin pour qu'on arrive enfin au miracle grec, Athènes, au tout-puissant cosmos, organisme vivant, le plus fécond qui fut jamais. L'œuvre ne fut pas toute humaine, ni spontanément calculée. De terribles nécessités agirent, aidèrent, forcèrent. Le péril doubla le génie. À travers les crises violentes, qui ailleurs l'auraient étouffé, il se fit, se forgea, fut son propre Vulcain, son industrieux Prométhée, bref, Pallas Athénée, Athènes. Longue histoire que je ne fais pas, il me suffit de l'indiquer. Je l'ai dit, du sourire était né tout le monde grec, en son bel équilibre de fantaisie et de critique. D'une part, le gracieux génie qui lui faisait ses dieux. D'autre part, l'ironie légère, tout instinctive et se connaissant peu, qui pourtant tenait l'âme étonnamment sereine, libre des dieux, libre du sort. Le sourire apparaît sur les marbres d'Égine. On se tue en riant. Hasard, pourrait-on dire. Impuissance d'un art maladroit. La même expression n'est cependant marquée dans 20 endroits de l'Iliade. Le sang n'y coule à flot, mais les héros s'arrêtent volontiers pour causer. Il y a de grandes colères, de haine aucune. Achille explique obligeamment à Lycaon qui lui demande la vie pourquoi il le tuera. Il l'a déjà fait prisonnier et il a échappé, il le retrouve toujours. Patrocle est mort, et moi-même, dit-il, est-ce que je ne dois pas mourir jeune? Donc, meurs, ami. Voilà un trait tout primitif. Parmi beaucoup de choses surajoutées et modernes, l'Iliade garde, en général, ce caractère d'âpre jeunesse. Ce n'est pas l'aube de la Grèce, mais c'est encore la matinée. L'air est vif, une forte sève se sent partout. Verte est la terre, le ciel bleu. Un vent de printemps agite les cheveux des héros. On lutte, on meurt, on tue, on ne hait pas, on ne pleure guère. Il y a la sérénité haute d'un âge fier encore qui plane sur la mort et la vie. Mais savent-ils ce que c'est que la mort? On pourrait en douter. Elle apparaît brillante et quasi triomphale. Montée sur un bûcher dans toute sa beauté, la pourpre et l'armure d'or s'évanouir en gloire, ne quitter le soleil que pour la lumière douce des Champs-Élysées où l'on joue avec les héros, ce n'est pas grand malheur. La mort donnée, reçue, n'altère pas beaucoup l'âme. Tandis que les Hébreux promettent aux enfants de Dieu de mourir vieux, la Grèce dit « les fils des dieux meurent jeunes ». Elle qui est la jeunesse même, elle ne veut de vie qu'à ce prix. Elle n'a pitié que de Titon, vieux mari de l'aurore, vieux sans remède, qui ne peut pas mourir. Entre Grecs, on se querellait, on se battait toujours, mais les guerres étaient peu de choses. Avec beaucoup de sens, ils respectaient les temps de labour, de semaille. Ils semblaient, dans leur lutte, leurs surprises et leurs embuscades, viser à la gloire de l'adresse, et, plus qu'aucune chose, faire riser de l'ennemi. Le beau était de l'enlever et de le rançonner, mais ils ne gardaient pas d'esclaves. Ils n'auraient su qu'en faire. Leur grande simplicité de vie, leur culture, si peu compliquée, souvent bornée aux oliviers avec un peu de pâturage, n'en avait guère besoin. L'esclave d'intérieur, employé aux soins personnels, leur eût paru intolérable. C'eût été pour eux un supplice d'avoir toujours là l'ennemi, une figure sombre et muette, une malédiction permanente. Ils se faisaient servir par leurs enfants. Les Locriens, les Phocéens, jusqu'à la fin n'eurent pas d'esclaves. Si le grec des rivages achetait par hasard un enfant aux pirates, il devenait de la famille. Eumée, dans l'Odyssée, vendu au roi Laërte, est élevé par lui avec sa fille. Il est comme un frère pour Ulysse. Il l'attend 20 années, le pleure, ne peut se consoler de son absence. Chose assez singulière, mais qui est établie par le plus sûr des témoignages, celui de la langue même, et par un mot proverbial. La guerre créait des amitiés. Le prisonnier, mené chez son vainqueur, admis à son foyer, mangeant et buvant avec lui, entre sa femme et ses enfants, était de la maison. Il devenait ce qu'on appelait son Doryxène, l'hôte qui s'était fait par la lance. Lui ayant payé sa rançon et renvoyé chez lui, il demeurait son hôte, chez qui l'autre, allant au marché, aux fêtes du pays, logeait, mangeait sans défiance. L'esclave est un homme laid, dit Aristote, et la plus laide des choses est l'esclavage. Cette monstruosité fut longtemps inconnue dans le pays de la beauté, la Grèce. Elle était en parfait contraste avec le principe même d'une telle société, avec ses mœurs et ses croyances. Comment, en effet, l'esclavage, qui est une forme de la mort, disent très bien les jurisconsultes, se fût-il accordé avec une religion de la vie qui voit dans toute force une vie divine? Cette joyeuse religion hellénique qui, dans les choses, même inertes, sent une âme et un Dieu, a justement pour base la liberté de tous les êtres. L'esclavage, qui fait du plus vivant de tous un mort, est l'envers d'un tel dogme, son contraire et son démenti. La Grèce, par sa mythologie, émancipait les éléments. Elle affranchissait jusqu'aux pierres. Était-ce pour changer l'homme en pierre? Elle humanisait l'animal. Jupiter, dans Homère, a pitié des chevaux d'Achille et les console. Solon fait une loi de l'ancienne prohibition religieuse qui défend de tuer le bœuf de labour. Athènes élève un monument aux chiens fidèles qui meurent avec son maître. L'esclave athénien était très près du libre. Ne lui cédait point le pavé, dit Xénophon. Les comiques en témoignent, souvent ils se moquaient de lui. La Grèce serait restée peut-être dans une certaine mollesse naturelle si les invasions doriennes n'y avaient apporté une violente contradiction. Sparte n'imposa pas seulement aux vaincus la misère, comme les Thessaliens aux Pénètes. Elle ne les tira pas au sort pour les approprier à chaque individu, comme les clairotes de la Crète. Elle les garda en masse, en corps de peuple, mais constamment avilis et très bas, chose horriblement dangereuse, qui maintint les vainqueurs eux-mêmes dans un état étrange d'effort et de tension, de guerre en pleine paix, dans la nécessité de veiller sous les armes, attentive à tout et terrible de n'avoir presque rien de l'homme. La Laconie était une grande manufacture, un peuple de serfs industriels qui vendait du drap, des chaussures, des meubles à toute la Grèce. Elle était une grande ferme de serfs agricoles qu'on appelait, par mépris, du nom d'une misérable petite ville détruite, Élote ou Ilote. On ne levait que des tribus légers, de sorte qu'ouvriers, laboureurs, ils étaient fort à l'aise, gros et gras, sous l'outrage, sous les risées des maigres, qui, par une éducation spéciale, restait une race à part. L'Ilote faisait ce qu'il voulait. Il semblait quasi libre, libre sous le fer suspendu, libre moins l'âme. Le plus dur pour ces malheureux, c'est qu'on les méprisait tellement qu'on ne craignait même pas de les armer. Chaque spartiate aplaté menait avec lui 5 Ilotes. Les enfants même en faisaient un jeu. Tous les ans, lâchés des écoles pour quelques jours, ils chassaient aux Ilotes, les épillaient, outrageaient ou tuaient ce qu'ils rencontraient isolés. Sparte, en cela, en tout, fut une guerre à la nature. Son vrai Lycurgue est le péril. Ces fameuses institutions, si peu comprises des Grecs, ne montrent, sauf un peu d'élégance, que les mœurs des héros sauvages de l'Amérique du Nord, les mœurs de tant d'autres barbares. De loin, cet héroïsme atroce de Sparte faisait illusion. Elle semblait un monstre sublime. Ce qui choque le plus, c'est qu'avec une vie si tendue et de rude apparence, elle n'en eut pas moins un pesant machiavélisme comme un art de terreur et de torpeur fatale pour amortir les cités grecques. Cet art, fort simple au fond, consistait à soutenir dans chacune le parti aristocratique. Les meilleurs, les honnêtes gens, forts de ce nom d'amis de Sparte, peu à peu étouffaient le libre esprit local. Dans chaque ville, plus ou moins sourdement, ce débat existait. Poussé à bout, le peuple se faisait un tyran contre lequel les riches invoquaient et le droit et l'appui de Lacédémone, qui magnanimement intervenait, rétablissait la liberté. Voilà comment elle gagnait de proche en proche. Sans avoir plus que 2/5 environ du Péloponnèse, elle le gouvernait, l'entraînait et peu à peu tout le monde hellénique. Aujourd'hui que la Grèce a fourni son destin, on peut juger bien mieux de tout cela qu'elle ne put le faire elle-même. Le titre de Lacédémone, ce qu'on admirait d'elle, c'est qu'elle sut se préserver des arts. Elle mit tout son art à n'en avoir pas. Elle disait savoir combattre, non parler. À peine elle daignait laisser tomber de rares oracles. Partout, elle donnait l'ascendant aux hommes inertes, oisifs, aux partis muets, paresseux des anciennes familles et des riches. Elle écrasait la foule active, le véritable peuple grec, bruyant, mobile, inquiet, si vous voulez insupportable, mais prodigieusement inventif et fécond. Résumons, le duel était entre la guerre et l'art. Deux choses pouvaient faire croire que l'art, le génie grec serait fatalement étouffé. D'une part, le découragement, la fatigue de l'esprit public quand on roulait de crise en crise entre les factions sans pouvoir avancer. D'autre part, la terreur de ces nouvelles formes de guerre, de ces servitudes inouïes, le sort de Mécène et d'Élos, l'absorption de tant d'autres villes. Cela porta un coup aux dieux. La Moïra, le partage, le dur destin qui partage les hommes, comme après le sac d'une ville, on partage les captifs, fut la grande divinité. Sous d'autres noms, la Parque et Némésis, qui s'indigne du bonheur de l'homme. Elles semblèrent avoir tendu un ciel d'airain, le dur filet de fer où le plus juste, le plus sage, le plus habile est pris. Chaque moment peut précipiter l'homme. Le citoyen libre et heureux peut, demain, avec tous les siens, femmes, enfants, liés sous la lance, figurer au marché de Sicile ou d'Asie. Une terrible croyance se répandit. C'est que les dieux, loin d'être une providence pour l'homme, sont ses jaloux, ses ennemis, qui l'épient pour le surprendre et l'accabler. De là une chose inattendue, peu naturelle en Grèce, bien étrange, la mélancolie. Elle est rare, exceptionnelle. Cependant, vous l'entrevoyez dans Théognise, dans Hésiode. Ils espèrent peu, craignent beaucoup. Leur sagesse est timide. Dans le ménage même et l'économie domestique, Hésiode s'en tient au conseil de la petite prudence. Déjà, il y avait eu bien du sérieux dans l'Odyssée. Des siècles la séparent du jeune sourire de l'Iliade. Mais, à travers les épreuves d'Ulysse, ses dangers, ses naufrages, l'injuste haine de Neptune, on voit toujours planer la noble et secourable Minerve pour soutenir le naufragé. Minerve a disparu dans Hésiode. Il dit expressément que les dieux sont jaloux de l'homme, attentifs à le rabaisser, à le punir de son moindre avantage, à reprendre sur lui ce que, par le travail, par l'art, il a pu conquérir. Dans ce poète, honnête, d'esprit moyen, qui vise à rester en tout médiocre, on est surpris, presque effrayé, de trouver consignée la légende terrible du grand procès contre les dieux, la légende de Prométhée. Le Prométhée sauveur fut la cité. Plus l'homme était abandonné de Jupiter, plus il fut pour lui-même une vigoureuse providence. Son Caucase, non de servitude, mais de libre énergie, fut l'acropole d'Athènes, où se rallia peu à peu tout le monde de la mer et la race ionique et les vieilles tribus d'Achaïe. Athènes, plus menacée que toutes, qui, devant son port même dans une île, avait l'ennemi, fit voir ce qu'était la sagesse. Souriante, mais forte et terrible au besoin, accordant tout au génie, la paix, la guerre, la liberté, la loi, tissant comme Pallas tous les arts de la paix, tandis que l'éclair héroïque jaillit de son puissant regard. La cité menant la cité, étant sa loi à elle-même. Tous faisant toutes choses, chacun à son tour, magistrat, juge, soldat, pontife, matelot, car eux-mêmes montaient leurs galères. Donc, point de force spéciale ? Ne le croyez pas. Ces soldats sont Échille, Socrate, Xénophon, Thucydide, je ne sais combien de génies. Mais, dit Rousseau, il en coûtait. L'esclavage des uns faisait la liberté des autres. De la Grèce, Rousseau n'a guère lu que Plutarque, le Walter Scott de l'Antiquité. Il n'a aucune idée de la vigueur d'Athènes, de sa brûlante intensité de vie. Il imagine que les maîtres ne faisaient rien, vivaient à la façon de nos créoles. Mais c'est justement le contraire. À Athènes, le citoyen se réservait ce qui veut de la force, les pesantes armures, les exercices violents et, chose surprenante qu'on sait par Thucydide, le rude métier de rameur. Il ne se décidait que rarement et par nécessité extrême à confier à des esclaves les vaisseaux de la République et l'honneur périlleux de ramer contre l'ennemi. Ce fut le salut de la Grèce. Athènes, par ses vaisseaux, frappant partout à l'improviste, fatigua les lourds doriens. Pallas, du haut de l'Acropole, surveilla les fureurs de Mars et, comme dans l'Iliade, elle sut bien les paralyser. Elle eut tout près de Sparte des alliés, Arcadiens, Achéens, les petites villes d'Argolide qui formèrent, sous Athènes, dans une île voisine, une ligue, une Amphictyonie. On y dressa l'autel de Neptune pour les Grecs des îles, dont peu à peu Athènes fut chef pour le salut commun. cela sauva Sparte elle-même. Qu'eût-elle fait, inondée de l'Asie, sans Thémistocle et Salamine ?